La séance des tirs au sort va bientôt débuter ici, au kiosque à pizza. Il dépose la boîte devant lui. Il recule de 3 pas. Il sort son téléphone. Il se rapproche du QR code. Il s'élance. Et c'est scanné. C'est scanné. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Il gagne une voiture électrique.
Jusqu'au 14 juillet, rendez-vous dans votre kiosque à pizza pour tenter de gagner des pizzas, des consoles de jeux et même une voiture électrique. Voir conditions et règlements du jeu sur lekioskeapizza.com. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Vous écoutez
RMC. RMC, 9h30, midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h06, de retour dans les grandes gueules du sport. Votre rendez-vous le samedi, le dimanche de 9h30 à midi. Merci infiniment de votre fidélité. Si vous avez raté le début d'émission, n'hésitez pas à aller nous télécharger en podcast. Ça fait également un carton en podcast. rmcsport.fr, les différentes applications évidemment pour nous télécharger. Les premiers débats sont d'ores et déjà en ligne. On a parlé de sport et de politique à 9h30 ou encore de l'équipe de France. D'un point de vue sportif, ça c'était à 10h, l'équipe de France. Les Bleus font-ils toujours aussi peur? Et ça a chauffé dans le studio RMC. Simon Dutin, David Douillet, Marie Martineau, Denis Charvet. On va parler des mesures de l'Union Cycliste Internationale à 2 semaines du Tour de France. Est-ce vraiment une révolution? On en débat dans quelques instants. 11h30, le débat caché. Ah, comme d'habitude, les GG ne savent rien et pourtant, elles vont devoir débattre. Vous avez peut-être, vous avez un avis sur la question ou pas? D'après vous, c'est quoi
du golf,
comme
bien
ça
sûr, plutôt non.
Plutôt bon.
Du golf.
Bah oui.
Oh, tu me tends une perche exceptionnelle pour vous dire que Mathieu,
oui,
Pavon est 5e de l'US Open de golf. C'est le 3e majeur de la saison.
Absolument.
Il reste 2 tours et il est en position idéale, mon cher Simon.
Sur un des parcours les plus difficiles, ouais, du monde.
Horrible.
Du monde. Un monstre. Ouais,
horrible ce parcours. Mmh. Il est à moins 3, notre ami Mathieu Pavon. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que tous les lundis, il y a le Practice RMC, le podcast golf. Donc n'hésitez pas à aller télécharger tous les épisodes. Et puis, on débriefera l'US Open de golf à partir de lundi. Ce ne sera pas Mathieu Pavon, malheureusement, le débat caché. Mais go Mathieu Pavon, on le soutient évidemment ici sur RMC. Et puis 11h45, on s'en fout pas, j'aurai d'autres informations à vous donner. Et ce sera à vous de me dire si ça vous intéresse, notamment une polémique en escrime. Voilà, j'aurai beaucoup de choses à vous raconter à propos de cette histoire. Mais on va débuter cette nouvelle heure avec cette citation de Jean-Paul Richter, qui a dit un jour... Le timide a peur avant le danger, le lâche au milieu du danger, le courageux après le danger.
RMC, les grandes gueules du sport passent la seconde.
Comment apprendre à votre enfant à faire du vélo sans les petits trous?
Chute terrible, il y a quelques instants sur les routes du Tour du Pays Basque, à 35 km de l'arrivée.
La première clé, en fait, c'est que ça doit venir de lui-même. Faut qu'il ait envie de faire du vélo sans les pieds trous.
Jonas Vingegaard est au sol, Primoz Roglic est au sol, énormément de coureurs qui sont partis à la faute.
Très clairement, il y a une augmentation de la vitesse qui est exponentielle ces toutes dernières années. Alors qu'est-ce qu'on peut faire contre ça?
La deuxième clé de réussite, ça va être de commencer dans l'herbe. Tout simplement parce qu'il va tomber et il tombera dans l'herbe. Il se fera moins mal que sur le goudron.
Oh, Romain Cobol, il était derrière. Lui aussi a volé.
Les coureurs en position 4-5, ils ont commencé à glisser. Je ne sais pas ce qui s'est passé.
La troisième clé, ça va être justement d'être dans l'optique qu'il va tomber.
C'est terrible. Un carnage. Tout simplement,
on ne peut pas continuer comme ça. C'est plus du vélo, là. Donc, il faut qu'on change. Qu'on soit capable de dire ça ne va plus. Mais il faut qu'on le fasse. Parce que si on ne le fait pas, un jour, on va avoir des morts.
Je suis tombé.
Mesure ou mesurette? Telle est la question après les annonces de l'UCI mercredi pour renforcer la sécurité lors des courses et donc de protéger les coureurs. Et c'est vrai que les chutes à répétition de ces dernières semaines, notamment lors du Tour du Pays Basque, ont enfin fait réagir la plus haute instance, les pelotons. Le peloton, les directeurs sportifs, les organisateurs réclamaient un électrochoc pour éviter des drames. Ils ont eu des mesures, notamment l'introduction du carton jaune ou encore une réflexion sur la restriction des oreillettes qui pouvaient perturber les coureurs. Des mesures qui vont être tester ces prochains mois, la musique qui fout les jetons. Et cette question, est-ce vraiment une révolution, une réponse tant attendue après ces chutes, révolution par révolution, oui ou non? Simon Dutin.
Non.
David Douillet.
Oui.
Marie Martineau.
Non, clairement pas.
David, Denis Charvet.
Oui.
J'ai deux oui, deux non. Avant de débattre, on va retrouver notre journaliste RMC Sport, Morgane Maury. Salut Morgane.
Bonjour les GG, bonjour à tous.
Hello Morgane.
Alors, quelles sont les mesures phares de l'UCI?
À partir du 1er août, il n'y a pas que le maillot qui sera jaune en cyclisme, mais aussi les cartons. Les coureurs vont découvrir les cartons jaunes comme dans les sports collectifs. Les cyclistes, mais aussi les directeurs sportifs, les suiveurs, les journalistes, les pilotes moto, ils sont tous visés par cette mesure qui rentrera en phase de test à partir du 1er août sur les courses World Tour hommes et femmes et aux Jeux Olympiques aussi. La personne coupable de l'une des 20 fautes recensées par l'UCI écopera d'un carton jaune. Par exemple, s'accrocher trop longtemps à la portière de son directeur sportif. De carton jaune lors d'une même course d'un jour ou d'une course à étapes, 7 jours de suspension, 3 cartons en un mois, la punition grimpe à 14 jours, 6 cartons dans l'année, c'est un mois. Le carton jaune ne devrait pas être tendu par un commissaire, mais plutôt annoncé par radio. Ces suspensions n'entreront en vigueur que début 2025 à la fin de la phase de test. L'Union Cycliste Internationale envisage aussi d'aller vers moins d'oreillettes. Elle précise que c'est une distraction, un danger physique aussi, car la radio est placée dans le dos des champions et certaines situations peuvent être sous source de chute. L'UCI planche également sur l'élargissement de la règle des 3 km à 5 km. Objectif, faire diminuer la tension du groupe de tête. On rappelle ce que prévoit cette règle. Un coureur qui chute dans les 3 derniers kilomètres sera classé dans le même temps que le groupe auquel il appartenait au moment de son accident. Les accidents graves ont marqué les esprits cette année. La chute collective du Tour du Pays Basque qui impliquait Jonas Vingegaard, Primoz Roglic et Remco Evenepoel est restée dans les mémoires.
Merci beaucoup Morgane Maury pour toutes ces précisions. Est-ce vraiment une révolution? Le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio, vous le savez, hein, nous sommes à 2 semaines du Tour de France, donc c'était important de faire ce débat, d'autant qu'au mois de mars dernier, on en a beaucoup, beaucoup parlé. Enfin des mesures, révolution par révolution. Simon Dutin, c'est non.
D'autant plus important que ces sanctions ne verront pas le jour pour le Tour de France.
C'est
donc,
ça.
Vraiment, on est
fou.
Donc on ne peut pas parler de révolution. Si c'était si urgent que ça, on le mettrait en place immédiatement. Non, je pense que c'est un retour. Il y a, dans ce cas énoncé Morgane, une certaine forme de logique. Je pense au reclassement des mecs qui tombent dans les derniers kilomètres. Ça paraît juste fair play pour eux. Je pense surtout que ça roule énormément plus vite qu'à une époque. Donc oui, c'est une façon de sensibiliser les coureurs. Moi, ce qui me dérange, c'est que en fouillant un peu, on comprend rien en fait à ce nouveau système de sanctions. Ce que j'ai juste compris, c'est qu'il y aurait pas un arbitre en noir qui brandirait un carton, tu sais, par le toit de la bagnole en disant non.
Non, ça interviendra après la course. Ouais.
Même si il y a quand même une similitude avec le système du foot, parce que si t'en as deux dans la même course, bon, t'es exclu. Après, ce système de suspension, il est un peu nébuleux. Si t'en as trois dans une certaine période, ça suspendu
c'est
une semaine.
Ouais.
Suspendu une semaine, c'est quoi finalement? Tu rentres t'entraîner à la maison plutôt que de te taper
un Tour de France, ça peut poser problème.
Oui, oui, il y a trois courses dans l'année. Je suis pas, j'ai pas l'impression que ce soit sur les grands tours que les problèmes se posent le plus fréquemment. Ce qui me plaît, c'est l'abandon des oreillettes. Moi,
alors on n'y est pas.
Mais attends, on n'y est pas du tout.
Je veux dire, c'est un début d'amorce. Ça a été la religion des oreillettes et on a suffisamment pour certains critiqué l'omnipotence, l'omniprésence de la communication par les oreillettes. Moi, je suis tombé dans le cyclisme à une époque où les mecs roulaient en casquette et sans oreillettes. Et je pense que je pense que les mecs qui sont dans le cyclisme depuis longtemps attendent ça. Ça m'étonnerait pas. Que
donc fallait frapper un grand coup. Et pour toi, c'est pas le cas du tout.
Non, okay. Voilà, une forme de logique. Faudrait éclaircir un petit peu, quoi, quand même.
Mais déjà, le fait de prendre ces mesures, pour moi, c'est une révolution. Parce qu'il faisait rien depuis longtemps. Je sais que Marc Madiot était en colère parce que justement, par rapport à la vitesse, on faisait rien. Là, on va mettre des cartons, même si c'est un peu flou dans la mise en pratique. Je trouve quand même que c'est des mesures qui sont bien parce que ça va mettre les coureurs devant leur responsabilité.
Non, mais tu le dis, c'est flou. Excuse-moi du peu, mais s'il y a bien un terme qu'on peut pas employer en
sport
de niveau.
Non, mais flou dans le sens où.
Mais tu as raison, c'est flou. C'est flou. Et c'est pas possible flou. De mettre des nouvelles règles qui soient floues. Ah, excuse-moi, oui. David, mais alors les sanctions, on n'a pas tout compris.
Non, attends,
elles seront données
rien.
Plus tard.
Mais si, parce qu'il te le dit quand même. Il te dit un carton jaune, il te dit si.
Mais alors quoi,
il y a quand même des mesures qui sont claires aussi.
On a des caméras partout, on est vraiment capable de suivre une course de bout en bout pour distribuer les cartons de manière équitable. Je suis pas sûr qu'on soit vraiment pas en rupture d'équité. Et pour ce qui est des oreillettes, excusez-moi, mais si les deux leaders gardent de toute façon une oreillette, ça devrait pas foncièrement changer les choses. On voit des différences quand on a des courses complètes où il y a pas d'oreillette, type championnat du monde, ces choses-là. Mais sans ça, je vois pas trop le
championnat de France, championnat du monde, ça existe. Hein, les courses sans oreillette,
ouais,
mais
c'est souvent
des belles courses en plus.
Et ouais, ça fait des belles courses.
Ok, pas de révolution, David Douillet.
C'est une révolution parce qu'au moins, il y a quelque chose qui est fait. Et qui est fait pour... En fait, le truc, c'est quoi? C'est de faire prendre conscience aux coureurs que maintenant, ils vont être responsables de leurs actes dans ce
ben
qu'ils
oui.
font. Les gars, faites attention à ce qui se passe. Et maintenant, on ne fait plus n'importe quoi. On ne donne plus des coups d'épaule dans le peloton. On fait attention. On regarde devant sa roue, etc. Parce que c'est souvent des fautes d'inattention. Donc, c'est les gars où, attention, il faut être plus concentré. Mais ça ne va pas assez loin. Là, je suis d'accord. Ça va pas assez loin parce que c'est trop long. Là, on aura des sanctions qui seront effectives en 2025. Ça aurait déjà dû être pris dès le dernier Tour de France, compte tenu de ce qui s'est passé. C'est trop long. Voilà. Il faut protéger les coureurs. Puis moi, il y a un deuxième truc qui est pas traité, et c'est dommage, sont les écrans. Et Marc en avait parlé aussi. Je veux dire, quand on a l'œil à un moment donné sur un écran pour vous indiquer votre puissance, vos tours de roue, vos tours de pédale, vos tours de je sais pas quoi, peu importe, eh ben, c'est une demi-seconde, une fraction de seconde d'inattention où vous avez pas les yeux, ben, sur la route ou sur le type qui est devant vous, etc. Donc, là, c'est source aussi, à mon sens, de dangerosité au sein du peloton. On aurait dû, on parle des oreillettes, mais moi je pense que c'est beaucoup plus significatif et accidentogène que d'avoir n'importe quel type d'écran sur son vélo. Voilà, sincèrement, aujourd'hui, on parle de connectivité avec des lunettes connectées, avec des oreillettes, etc., etc. Mais quand on baisse la tête pour regarder quelque chose, on ne l'a pas sur l'horizon ou sur ce qu'il y a devant soi.
On nous appelle, ça veut dire qu'une GG nous appelle, elle est en train de nous écouter, elle veut réagir à notre débat. Moi j'ai Jérôme Pinault, il y a Marc Madiot, ou peut-être quelqu'un d'autre, hein. Peut-être c'est Marion
Bartoli
qui veut nous parler, on décroche. Allô, c'est qui?
C'est qui? C'est moi.
qui a reconnu la voix?
C'est Marc.
Évidemment, Marc Madiot. Bah Marc, on est ravis de t'avoir dans cette émission. Participe à notre débat. Est-ce que c'est vraiment une révolution? Qu'est-ce que tu veux nous dire?
Déjà, je vais vous dire un premier truc qui n'a pas été souligné, c'est que la petite affaire nous coûte quand même 800 000 euros à la famille cycliste. On a mis 800 000 euros dans le Nourin avant de commencer pour qu'on nous trouve des mesures. Donc c'est quand même le minimum qu'on ait quelques mesurettes qui sortent aujourd'hui.
Mais comment ça veut dire 800 000 euros pour faire quoi?
Pour décider de mettre des cartons? Il a été mis en place une structure, une commission, une commission pour trouver des solutions pour réduire les chutes et les accidents sur les courses cyclistes. Mais il y a un coût avant de commencer, c'est de 800 000 euros par an.
Vous êtes fait mettre une carotte, là, ils sont partis en vacances avec
vos tubes. C'est vous qui
payez.
Pour réfléchir?
Pour payer des gens qui réfléchissent à nous trouver des solutions.
Ouais, ça coûte cher.
Non, mais c'est une blague. C'est une blague.
Mais c'est la réalité.
Il a raison.
Mais c'est la réalité.
Ce sport est incroyable.
On a mis de l'argent pour essayer de trouver des solutions pour la sécurité. Bon, une fois que ça c'est dit, c'est tout.
Ok, ça c'est le premier coup de gueule. C'est on a mis de l'argent pour nous pondre des mesurettes. Maintenant, sur les mesurettes en question.
Les mesurettes en question, moi je trouve qu'ils sont allés d'abord à la solution de facilité. Ils s'en prennent d'abord aux coureurs. Ils sont les plus faibles. C'est ça qui sont les premiers. Parce qu'on s'en prend pas. Le problème principal des chutes, au-delà de tout ce qui a pu être dit, c'est quand même la vitesse. C'est quand même la vitesse. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans ce qui est proposé ou avancé comme solution, je ne vois rien qui réduit la vitesse drastiquement des vélos et de l'évolution des coureurs. Ça, c'est le premier point. On ne s'attaque pas à ce sujet-là. On ne s'attaque pas non plus au sujet des mini-ordinateurs qu'ont les coureurs aujourd'hui sur leur vélo. Aujourd'hui, pourquoi ça va vite dans certaines zones de descente? Tout simplement parce que les coureurs ont un GPS sur le vélo. Le GPS leur dit si le virage se referme ou ne se referme pas, s'il est en épingle à cheveux ou pas. Donc ils sont en permanence le nez sur leur écran, tout en descendant à plus de 100 km/h des pentes vertigineuses. Donc là, il y a quand même aussi un problème. On commence le début du commencement, voire même d'une solution, à dire on va limiter les oreillettes, mais on ferait bien aussi de s'attaquer à l'utilisation des capteurs de puissance. J'ai rien contre les capteurs de puissance en termes d'entraînement et d'évaluation de la performance, mais encore faudrait-il qu'on le masque et qu'on le cache au coureur. Ça permettrait au coureur de retrouver sa pleine concentration par rapport à la route qui est devant lui.
Je reviens sur le premier point que tu nous as donné. Comment on limite la vitesse? Il y a quoi comme mesure à donner, par exemple?
En limitant peut-être les braquets, en élargissant les guidons. Par exemple, les guidons, aujourd'hui, on voit qu'il y a des guidons de plus en plus réduits, de plus en plus aérodynamiques. On pourrait s'attaquer à la partie aérodynamique des vélos pour essayer de ralentir l'évolution. C'est possible de dire le poids du vélo augmente, c'est possible de dire On limite l'aéro sur les vélos. Regardez ce qu'on peut faire aujourd'hui sur un vélo de chrono, par exemple, en termes d'aéro. Bah, on va de plus en plus vite,
mais revenir en arrière, Marc, puisque depuis des années, la technologie fait qu'on a essayé d'optimiser tout le temps.
Alors, écoute, ce week-end, on a un bel exemple. On a les 24 heures du Mans. Quand ça va trop vite aux 24 heures du Mans, on trouve des solutions pour ralentir. Pourquoi on ne serait pas capable de faire en vélo ?
Ouais,
on met une chicane, ouais. Il y a un autre point que j'aimerais souligner, c'est l'arrivée des sprints. Parce que là aussi, il y a des sacrées castagnes. Et quand ça tape très fort. Moi, j'ai souvenir de l'année dernière. Il y avait une espèce de polémique qui était née avec Jasper Philipsen sur son comportement. Au vu de la nouvelle réglementation, est-ce que tu penses que cette année, Jasper Philipsen va pouvoir faire comme il veut et ce qu'il veut et être aussi dangereux que l'année dernière ?
Ah, il n'a pas été sanctionné l'année dernière. C'est ça le problème.
Est-ce qu'aujourd'hui, on va... Tu vois, est-ce que ça donne un moyen de sanctionner un peu mieux ?
Oui, alors sur le fond, l'idée du carton, pourquoi pas ? J'ai envie de dire pourquoi pas, il faut l'essayer, il faut tester, on verra ce que ça donne. Après, encore faut-il que les arbitres arbitrent de la même manière pour tout le monde, en toutes circonstances. C'est un peu comme parfois en football, où il y a des stars qui sont quand même un peu plus protégées que d'autres joueurs.
Tu auras toujours ce problème.
Ou un peu moins sanctionné que d'autres.
Donc on est d'accord, Marc.
Malheureusement, tu prends pas.
On est quand même d'accord que l'on est sur un effet de com' plus qu'autre chose pour l'instant.
Ouais, mais c'est un bon début quand même, parce qu'il se passe des choses.
Objectivement,
le carton, c'est
beaucoup, mais objectivement, l'idée du carton et d'une mise en place du carton, ça peut être intéressant. Moi, j'ai regardé la série Netflix sur certains épisodes, notamment par rapport à l'attitude des équipes de sprinteurs. Je pense que le carton jaune ne fera pas de mal à ces gens-là.
Ouais, ok, donc le carton jaune, okay. Parce que tu disais, on stigmatise les coureurs. Et je me souviens que même de grands coureurs avaient pris la parole pour dire, mais c'est notre faute aussi la vitesse. Notamment Van Der Poel, qui est quand même un des illustres coureurs de cette saison. Il a dit, mais c'est aussi notre faute. Pogacar aussi l'avait dit. Non, mais est-ce que.
Oui, mais tu peux pas demander aux coureurs de ralentir.
J'entends, mais par exemple sur la question des oreillettes, est-ce que les coureurs qui se sont habitués à ça, je veux dire, tous les jeunes coureurs que tu as dans ton équipe, ils ont toujours. Quasiment toujours couru avec des oreillettes.
Non, les jeunes, non, il n'y a pas d'oreillettes. Donc on peut se séparer d'oreillettes.
Ils ont maintenant cette habitude.
L'oreillette, j'ai envie de dire que le combat de l'oreillette est presque déjà trop ancien. En fait, aujourd'hui, le vrai problème, c'est les capteurs de puissance et les GPS sur les vélos.
C'est les écrans.
Je me souviens quand tu étais venu dans cette émission pour commenter, évidemment, toutes les chutes à répétition et on en avait beaucoup parlé dans les GG du sport. Tu étais avec nous, Marc. Tu disais aussi, mais moi, je prends ça aussi pour moi parce que c'est aussi de ma faute. C'est-à-dire que les directeurs sportifs donnent comme consigne aux coureurs de vite aller se placer quand il y a un point précis. Donc, nous aussi, on a notre part de responsabilité. Est-ce que ces mesures vous restreignent ? Est-ce que ces mesures vous mettent aussi, vous, devant vos responsabilités ?
Non. Non, la responsabilité et le dialogue et les échanges et les prises de conscience, on les fait quand on est au repos dans le canapé ou devant une bière. Mais quand on est en compétition, quand on est dans la voiture ou quand on est sur le vélo, on oublie et il faut faire abstraction de tout cela pour pouvoir être performant. Donc, une fois qu'on est dans l'action sportive, quelle qu'elle soit, on est dans un autre schéma et on fait abstraction de tout ce qu'il y a au niveau du fair play, de dire je ralentis pour préserver ma sécurité et celle des autres, ça j'y crois pas une seconde.
Marc, est-ce que il y a les capteurs au niveau des écrans, est-ce qu'il y a beaucoup de directeurs sportifs qui sont contre, qui sont prêts à militer pour les enlever, parce que c'est ça le vrai problème.
Il y a une majorité qui veut les garder.
Et voilà, donc c'est le chat qui se mord la queue, quoi.
Mais c'est hyper
grave. C'est au président de l'UCI de taper du poing sur la table, hein. Mais bon, il est un peu occupé, il est aussi président du CONSF.
David Lapartient.
Il y a beaucoup de boulot, mais je pense qu'il en est conscient. Il en est conscient, sauf que c'est difficile de faire l'unanimité
par rapport à tout ça. En fait, c'est même pas une question de ça. Si on t'entend bien, Marc, c'est aussi un problème de politique économique.
Oui. Bien sûr, c'est-à-dire faites des vélos moins rapides.
En fait, vous êtes coincé. C'est-à-dire qu'avec toute la technologie qu'il y a maintenant à faire du vélo, vous ne pouvez pas revenir en arrière.
On pourrait revenir en arrière.
Est-ce qu'il n'y a pas trop de lobbying ? Non, mais
on pourrait revenir en arrière si on avait une fédération internationale extrêmement puissante comme peut l'être une fédération de sport automobile.
Ouais, j'allais te dire, ils sont capables de le faire en sport automobile.
Après, il y a des enjeux économiques.
Tu veux dire par là que le président de l'UCI, il n'est pas assez puissant, il ménage la chèvre et le chou parce que
ça pourrait influer
sur son poste par rapport à d'autres fédérations. Il n'a pas le choix, mais c'est scandaleux parce qu'on parle de santé d'athlète, on parle de.
Mais
j'exagère à peine, de vie ou de mort, quoi, à un moment donné.
Ouais. On a quand même. Il est il est coincé, il est obligé de
ménager. Oui, mais personne n'est coincé quand il s'agit de blessures, quand il s'agit de possibilité de mourir quand on fait quelque chose.
Mais il est coincé par rapport à quoi? Aux enjeux économiques?
Bien sûr.
Donc,
si demain matin, le président du CI dit voilà, les vélos, la vitesse des vélos est trop importante, il faut réduire tout ça. On enlève les freins à disque.
On enlève les écrans.
On enlève les écrans et tout, mais il ne va pas pouvoir. Il ne va pas être capable de le faire.
Oui, voilà, c'est ça. C'est affreux.
Et pourquoi il ne peut pas le faire? C'est ça que je ne comprends pas.
Mais
c'est pourquoi il
ne peut pas l'impact économique. La puissance économique de tout ce qu'il y a derrière fait que c'est difficile de mettre ça en place.
Et puis j'imagine que les différentes équipes elles ont signé des contrats, David.
C'est ridicule. Je ne comprends pas. Je veux dire, quand par exemple, tu es un exécutif à la tête d'un pays, quand les voitures roulent trop vite parce que les gens meurent sur les routes, tu réduis la vitesse. Ben, pourquoi on ne peut pas le faire au niveau du sport?
Mais tu réduis la vitesse, mais tu ne réduis pas. J'entends ce que tu veux dire.
Tu réduis pas la puissance des voitures, mais tu réduis pas
les moteurs.
Le moteur,
ça a toujours été le même problème.
Si tu limites cette capacité. Alors, je vais prendre un autre exemple. Pourquoi ils le font en F1? Il y a des morts en F1. On dit voilà, on met des protections, on renforce les
côtes autour des.
Mais pourquoi on le fait pas? C'est ça que je comprends pas.
Un point, pour terminer avec Marc. Non, il y a un point, je trouve, hyper important. Peut-être que là, la technologie n'est pas encore assez avancée. Mais on parlait beaucoup des airbags dans le dos, qui, dès que tu touches le sol, se déclenchent. Oui. Moi, je trouve que c'est l'une des meilleures mesures pour sécuriser les pilotes.
Sauf que, on s'attaque pas au vrai problème de base. Le problème de base, c'est que ça va trop vite. Reprends ta bande-annonce de ce que tu nous as présenté tout à l'heure au début du sujet de la sécurité. T'as Christian Prudhomme qui dit « ça va trop vite ».
Oui. Et personne ne fait rien. Ça va trop vite et personne ne fait rien. C'est incroyable.
Voilà.
Bon. Alors, est-ce que par exemple, alors puisque Lucie est pas capable de le faire, est-ce que Christian, parce que c'est un organisateur privé, je crois, il me semble, d'une course privée, le Tour de France, c'est une course privée, serait en mesure de mettre en place des systèmes qui permettent. Pourquoi?
Il est organisateur de course.
Et oui, il y a des règles.
Oui, mais il peut mettre un règlement. Il met bien un règlement. Il y a un règlement intérieur.
Il est sous la réglementation de l'UCI.
Et après, il pourrait mettre un règlement intérieur technique.
Il peut pas.
Marc, tout puissant organisateur qu'il est, il est dans le giron de l'UCI et sous la réglementation de l'UCI.
Bien sûr. Donc il ne peut pas faire n'importe quoi. Merci beaucoup, Marc. Marc, on est à 2 semaines du Tour de France là. On est bien dans la FDJ là. On va gagner.
Alors, on est comme tout le monde, on est au boulot et on essaie de peaufiner les choses pour être le plus performant possible dans une quinzaine de jours.
Arrête Marc, t'es devant les 24 heures du Mans, on te connaît.
On te connaît.
Oui, c'est vrai, en plus.
On était avec toi l'année dernière,
on te connaît.
Merci d'avoir été avec nous Marc.
Salut,
c'est
Marc.
Toujours chouette de
Salut les amis, à bientôt.
Et bonne chance pour le Tour de France évidemment qui débute dans 2 semaines, on sera là sur RMC pour suivre les performances de nos champions français, de la FDJ, mais évidemment du Tour de France dans la globalité. D'ailleurs, il y aura une radio digital, un spécial Tour de France comme l'année dernière. Bon, c'est chouette d'avoir eu Marc Madiot dans ce débat qui était très intéressant, mais GG. Tout de suite, le débat caché. Je ne sais pas si c'est très intéressant parce que vous ne connaissez pas le sujet. Donc, je ne sais pas si vous allez être intéressant.
Voyons.
Mais c'est ça l'objectif du débat caché, c'est de vous surprendre.
Il n'y a pas du JO en fond? Non.
En fond?
Sur fond de JO?
Sur fond de JO, t'es allé voir mes textes ou pas?
Non, je ne sais pas.
Pas du tout, hein, peut-être parler de golf. Ah, t'as révisé Mathieu Pavon ou pas?
Bah oui.
Oui, bon, allez, à tout de suite sur RMC. Yes. Débat caché.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h33, de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Denis Charvet, David Douillet, Marie Martineau, Simon Dutin, le zapping des GG dans 10 minutes. Restez bien avec nous, on s'en fout pas, la polémique Alexandre Bardonnet en escrime. J'ai envie de vous raconter cette histoire, mais il faut me dire que ça vous intéresse. Sinon, mon histoire, je la garde pour moi et je la lirai à mes enfants. Mais tout de suite, vous le savez, mes GG, un grand moment, c'est l'heure du débat caché.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Les GG ne savent rien et pourtant elles vont devoir débattre. Vous le savez, il faut réagir sur l'émotion, avec des idées, c'est vrai. Et là, il va falloir un petit peu se creuser la tête, mes GG. Il va falloir être réactif, car le guet-apens du jour, pour vous, c'est ça.
Ça y est, on a eu la liste des porte-drapeaux.
Ah quoi?
Mais non,
Wendy, Renard, Estelle,
Monsieur, Erwin Engapet,
Mélina, Robert Michon,
Enzo,
Lefort,
Charlotte Bonnet,
Florent.
très beau clip hein, d'ailleurs à retrouver sur les réseaux sociaux. Ils sont 14 et à la fin il n'en restera que 2. Jeudi, le comité olympique français a donné la liste des 14 athlètes candidats, 6 hommes, 8 femmes, pour devenir porte-drapeau de la délégation française lors de la cérémonie des Jeux Olympiques de Paris le 26 juillet prochain. Les deux porte-drapeaux seront élus pour la première fois, grâce à un vote électronique des athlètes composant cette délégation. Ce sera les 9 et 10 juillet prochains. Le résultat sera dévoilé 2 jours plus tard, le 12 juillet. S'il n'y a pas d'énormes surprises dans cette liste, c'est vrai, certains candidats n'ont pas encore validé leur ticket pour les JO, comme le perchiste Renaud Lavillény. Alors, parce que c'est important, je vous donne les candidats. Les 8 femmes. Charlotte Bonnet, Romane Dico, Laetitia Guapo, Camille Lecointre, Estelle Mosley, Pauline Ranvier, Wendy Renard et Mélina Robert-Michon. Les 6 hommes, Jean-Baptiste Bernard, Renaud Lavillény, Enzo Lefort, Florent Manaudou, Erwin Engapet et Sofiane Oumia. Les GG, notre débat. Il me faut 2 noms chacun. Pour qui, vous votez?
Mais on n'a pas le droit de voter, nous.
On s'en moque.
Ok, pour qui on voterait?
Nous sommes les GG du sport, okay. Nous donnons notre avis. Pour qui vous votez, vous? Un homme, une femme? Marie Martineau.
Alors moi, je voterais Mélina Robert-Michon et Florent Manaudou.
Ok. Simon Dutin.
Bah pourquoi tu fais des gros gestes?
Parce que j'ai les mêmes, Florent Manaudou et Mélina Pop-Michon.
Moi, j'ai pas les mêmes.
Okay.
Robert-Michon, oui, mais Lavillény, parce qu'il était champion olympique.
Ok, il n'est pas encore au jeu. Hein.
Oui, c'est vrai, mais...
Mais pour l'instant, c'est plutôt ton candidat, ton poulain.
Ben oui.
Ok, David Douillet, qui a été porte-drapeau, hein, David Douillet. Vas-y.
Florent, oui, sans problème. Après, j'ai une hésitation de cœur, parce que je les connais tous les deux et je les adore. Romane et Estelle, voilà. Romane et Estelle Mosley, oui.
Romane Dico, Estelle Mosley. On va commencer avec qui? Bah tiens, Marie Martineau, je sais que tu es portée sur le sujet de ces porte-drapeaux. Déjà, pourquoi on a l'impression que Florent Manaudou s'est joué d'avance, quoi? Il fait consensus.
Je crois que c'est une histoire d'émotion sur une épreuve olympique où il n'était pas spécialement prédit qu'il serait champion olympique et où on a tous vécu ça. Je crois que les Jeux, c'est ça. C'est surtout beaucoup l'émotion. Après, Florent...
Je dirais l'émotion et la carrière aussi qui va avec.
Et j'allais le dire.
Il arrête, Florent, il revient, il veut faire les Jeux.
Ouais, il y a une histoire. Il y a une vraie histoire et il l'incarne. Au hand, ça s'est pas forcément passé comme il avait envie, mais c'est ça aussi, c'est la résilience, c'est l'échec, c'est goûter l'échec, revenir. Il y a un côté, la natation aussi, le sport qu'il fait, la natation, c'est un vrai sport olympique. Compter les carreaux au fond de la piscine, l'engagement que ça représente. Non, mais c'est vrai, c'est pas le sport le plus fun de l'histoire. Moi qui en un sport fun, j'ai une admiration sans borne pour ces gens qui sont capables de s'entraîner sans qu'il y ait vraiment le plaisir, tu vois, comme je l'entends, la glisse, tout ça, bref. Voilà, vrai sport olympique, un mec avec un charisme dingue, qui n'a jamais fait de fausses notes, enfin tu vois, il cumule vraiment un peu à tout. Beau gosse, on va pas se mentir. C'est
ah. Ok, cool. Florent Manaudou, il a tous les critères pour être porte-drapeau et c'est le grand surtout favori chez les hommes.
Je pense.
Chez les femmes, en revanche là, c'est plus compliqué. Je sais que Simon Dutin, depuis le début, t'es en campagne, non pas législative, mais pour Mélina Robert-Michon.
Bah oui, emblématique, athlète remarquable, 23 fois championne de France, voilà... je sais pas, c'est le cœur qui parle. Je suis ravi qu'elle soit éligible parce que je te cache pas que j'ai pas résolu l'hypothèse de Riban ou la conjecture de Hodge, donc j'ai du mal à comprendre le processus de sélection. Avant, ça paraissait un petit peu plus simple.
Ce sont les fédérations qui ont proposé 2 noms.
D'accord, il y a vote électronique sous contrôle d'huissier avant de savoir qui peut être éligible, mais machin, qui sort, qui est concerné.
Après, non, mais les votes.
T'as ceux qui veulent pas, t'as ceux qui auraient bien aimé mais qui sont pas éligibles. Bon, franchement, j'ai un peu saigné du nez, je comprends pas. Ça, je trouve qu'on a un peu complexifié.
Il y a eu des critères mis en place.
Ouais, moi ça me plaît pas. Donc voilà, Mélina Robert-Michon, c'est le cœur qui parle. Florent Manaudou aussi parce qu'il est beau gosse et parce que il fait un sport emblématique, la natation évidemment.
Ok, l'athlète, la natation, exactement. Ça paraît normal.
Mélina, tu parlais d'histoire sur Florent. Mélina, il y a vraiment de l'histoire aussi. Il y a beaucoup d'Olympiades où elle part du fin fond du classement et elle remonte et elle remonte et elle remonte. Il y a aussi le fait que les femmes, c'est toujours plaisant de se dire qu'elle a pu mener de front sa carrière sportive et le fait de devenir maman plusieurs fois. Et ça, c'est, enfin, tu vois, ça donne bon espoir pour la suite pour les athlètes.
C'est juste une petite parenthèse. Si moi j'avais choisi une porte-drapeau en disant parce qu'elle est pas mal, elle est mignonne.
Ouais, tu te serais fait des dinguer.
Ouais,
6 sur 4000 ans de domination masculine, j'en profite.
Donc en fait, pour les mecs, on a le droit, mais voilà. C'était juste une précision.
Je suis un peu déçu parce que je pense que t'es largement au-dessus de ça quand même, habituellement.
Oui, Mélina, 45 ans quand même.
Oui. Et justement, la longévité, voilà.
Ben non, mais c'est extraordinaire. L'exemplarité, oui. Non, mais je trouve ça une. Puis de la résilience, c'est. On l'a reçu au Moscato Show. Moi, j'étais extrêmement séduit par son discours, l'énergie qu'elle a, la volonté qu'elle a. Non, moi là, je vote pour elle parce que c'est une vraie athlète et. Et puis surtout, l'exemplarité, c'est vraiment tout.
Et quelque part, dans ce débat, on va influencer les votes des athlètes qui nous écoutent, qui écoutent les grandes gueules du sport, qui vont devoir voter, parce que nous, on ne vote pas. Mais les athlètes qui font partie de la délégation, d'ailleurs, je trouve que c'est plutôt un bon système, parce que par qui ils ont envie d'être représentés, je trouve que c'est plutôt pas mal. David Douillet, lui, il ne veut pas de Mélina Robert-Michaud. Il a beaucoup de mal à nous dire.
Non, je n'ai pas dit ça.
Il l'aime pas.
Je n'ai pas dit ça. De toute façon, si elles sont là, toutes nommées, c'est que.
Elles le méritent.
Enfin, elles le méritent. Vraiment, là, on est en train de chipoter, de chicailler. Si je porte un peu plus les choses, je me dis que Mélina a toute sa place à être porte-drapeau sans aucun problème. Et vous avez argumenté pour ça, et je suis d'accord avec vous. Et je me dis, alors, juste une petite pointe pour ergoter un petit peu. Bon, elle n'a jamais gagné les Jeux. Par exemple, Estelle les a gagnés. Ouais. Voilà, y a une forme. Tu sais, quand t'es porte-drapeau, c'est aussi une récompense par rapport à toute ta carrière. Et quand t'as gagné les Jeux,
Il y a un tas d'athlètes qui ont été porte-drapeau qui n'ont pas gagné les Jeux. Hein.
Je savais qu'elle allait utiliser ça. Mais quand beaucoup, même, hein. Florent a gagné les Jeux. Estelle a gagné les Jeux. Ce serait un joli signal. Voilà. Le petit plus, c'est tout.
Le petit plus. Non, mais il peut s'entendre, hein, ce petit plus. Romain Dico, elle a gagné les Jeux, mais par équipe, ça compte?
Non.
Oui, ça peut compter.
Non, mais qui a dit non?
C'est David Charvet qui a dit non. Et Denis Douillet dit oui.
Après, la réserve que j'ai, là, c'est pour débattre. Hein. On adore Romain Dico. En plus, ça fait partie de la team RMC. C'est qu'elle est jeune, Romain Dico. Je veux dire, elle a encore toute son histoire à écrire, alors que Estelle Meslim et Lina Robert-Michon, ça ne va pas se présenter 50 fois.
Oui, c'est ça
qu'on a envie de retenir.
C'est un argument, oui. C'est un argument.
Écoutez, voilà ce que vous pouvez vous dire sur les porte-drapeaux. C'est important d'avoir votre avis et peut-être d'éclairer aussi les auditeurs.
En tout cas, on sera très heureux, quels que soient les porte-drapeaux, vu le casting, on sera très heureux. On sera, je pense, tous satisfaits de nos porte-drapeaux et fiers d'eux.
Voilà. Et toi, tu allumeras la vasque, évidemment,
oui,
David.
Bien sûr, David, c'est prévu, ça. Hein.
Moi, je vais allumer un truc.
Je vais allumer le feu.
Je vais allumer le feu dans les stades, dans chaque stade. Voilà, c'est ça que je vais faire.
Voilà, il peut rien nous dire. Évidemment, tout le monde pousse
avec
ici.
Avec quelques
petits
pas de danse, peut-être.
Les grandes gueules du sport.
Ouais, exactement.
On va y arriver, David.
Il y a la flamme qui est arrivée aujourd'hui en Guadeloupe, hein, avec Marie-Josée Pérec. Oui. Mais donc beaucoup parlent de Marie-Josée Pérec, mais un tandem Marie-Josée Pérec, David Douillet, on est tous en train de le soutenir. On fait du lobbying, nous aussi. Hein, on a le droit. Hein, dans
bien sûr.
Ça me touche beaucoup.
Mais tu sais ou pas ?
Je suis tout seul dans ma campagne, ça me touche.
Est-ce que tu sais ou pas du tout ? Non ? Au moins, est-ce que tu sais ?
Non, je ne sais pas.
D'accord.
Bah, en plus, il est beau gosse quand même, donc bon.
On a.
C'est vrai que c'est un argument de poids.
Non, mais
ouais.
Pourquoi crois-tu que JC est présente et que toi tu es le joker quand il ne répond pas? T'en es reconnu.
Alors je devrais pas rire à cette vanne, mais merci beaucoup. Bon, allez, on passe à autre chose. Ah, le coq. Cocorico, eh oui, pour assister au match des Bleus, l'expérience RMC. À partir de maintenant, vous avez 5 minutes pour vous inscrire, pour assister à la rencontre France-Pologne. C'est en Allemagne, évidemment, troisième match des Bleus. Le 25 juin prochain, vivre l'expérience RMC, c'est quoi? C'est le vol plus l'hôtel. C'est rencontrer les équipes d'RMC Sport et évidemment vos deux places pour la rencontre. 11h43, vous avez 5 minutes pour vous inscrire en envoyant Euro au 7-32-16. Euro au 7-32-16, vos places pour l'Euro 2024, ça se gagne uniquement sur RMC. Allez, on revient dans quelques instants pour une polémique en escrime. On s'en fout pas, à tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h46 de retour dans les grandes gueules du sport. Restez bien avec nous à partir de midi. Les paris RMC autour de l'Euro 2024. Évidemment, les trois matchs du jour et notamment cet alléchant Espagne-Croatie. On vous donnera toutes les cotes avec la Dream Team des paris RMC. Toujours avec Denis Charvet, Marie Martineau, David Douillet, Simon Dutin. Rebelote. On s'en fout pas.
RMC, le zapping des grandes gueules du sport.
Alors, il y a le zapping des l'Euro et puis il y a le zapping traditionnel. Mais GG, je vous donne des infos, vous me dites si ça vous intéresse ou non. La première information à vous donner, c'est la polémique Alexandre Bardonnay en escrime. On s'en fout pas. Simon Dutin.
On s'en fout pas.
Marie Martineau.
Ah, je m'en fous pas.
David Douillet.
Je m'en fous pas.
Ok, Denis Charvet. Alors, je vous explique la situation. Absent de la sélection olympique pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, à sa grande surprise, l'épéiste Alexandre Bardonnay est convaincu d'avoir sa place au sein de l'équipe de France. Et il a donc décidé de saisir la conférence des conciliateurs du CNOSF. Elle doit examiner le dossier le 25 juin prochain. Il demande tout simplement l'annulation de la sélection olympique d'épée masculine, estimant avoir été exclu sur la base de critères extra-sportifs. Alors, pour comprendre déjà les critères, déjà seul un athlète est assuré d'être sélectionné d'office, le premier au ranking interne, le premier en France, en l'occurrence Yannick Borel. Donc lui, il avait sa place. Ensuite, le comité de sélection choisissait deux autres tireurs et un remplaçant qui participe au match par équipe, sans que des critères clair ne soit véritablement établi, écrit noir sur blanc, c'est une sélection, même s'il s'agit évidemment des performances des athlètes. Alors vous allez me dire, ses copains sélectionnés doivent être furieux qu'ils demandent un recours parce qu'il y a une sélection qui a été établie. Et ben pas du tout, pas du tout, parce qu'ils soutiennent sa décision, notamment les deux cadres, Yannick Borel donc, déjà sélectionné, et Romain Cannon, le champion olympique au dernier JO. Il faut dire que les trois hommes sont en conflit avec leur fédération et ils avaient d'ailleurs décidé il y a quelques mois de claquer tout simplement la porte de l'INSEP. Alors la version de l'athlète, c'est Yannick Borel, il est qualifié automatiquement. Cannon, bah, on est obligé de le prendre parce qu'il est champion olympique en titre. Et c'est Bardonnay qui paye ce départ. Écoutez, Romain Cannon, c'était cette semaine à propos de l'exclusion pour lui de son copain Alexandre Bardonnay.
Je pense que c'est d'une certaine manière injuste. C'est un choix commission. C'est pas trop sur quoi c'est basé finalement. Je suis humain, ouais. C'est peut-être tout simplement ça. C'est parce que je suis humain, je suis un athlète. Moi, j'ai un de mes meilleurs amis, voilà, qui est pas qualifié. Pour créer une cohésion, ça demande d'être ami aussi. Il faut créer quelque chose, il faut créer une histoire. Ça se fait pas en une semaine. C'est des choses qui peuvent prendre des années. Paul, j'ai grandi avec lui à Reims. Alexandre, ben, on a fait quasiment toutes les coupes du monde ensemble. Je suis touché par cette situation.
Alors, Romain Cannon cite Paul. C'est Paul Allègre, hein, qui a donc été désigné remplaçant et donc qui a pris la place d'Alexandre Bardonnay. Je précise aussi que Romain Cannon, il s'est personnellement engagé à décrocher son téléphone pour contacter, et c'est ce qu'il a fait, Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports, pour l'expliquer la situation. Allez-y sur ce sujet quand même qui est assez étonnant à un peu plus d'un mois des Jeux Olympiques, Marie.
Bah, en fait, cette team, elle existe depuis longtemps et c'est une team, ils avaient l'habitude de fonctionner ensemble, donc je comprends que que Romain Cannon ou Yannick Borel soient un peu déçus d'avoir perdu Alexandre Bardonnay dans l'histoire. Ce qu'il faut savoir pour essayer d'amener un petit peu d'objectivité, ce qu'il faut savoir, c'est que le remplaçant ne rentre que en cas de si ça va mal, tu vois, et il rentre pour renverser la vapeur. Et a priori, Alex n'aurait pas spécialement prouvé quoi que ce soit en la matière, alors que Paul Alex serait plutôt le tempérament et il aurait plus les caractéristiques d'un bon remplacement.
C'est ce que défend la Fédé d'ailleurs.
Dans ce qu'on attend,
Fédé dit voilà, sur les derniers événements, bah on a un peu plus confiance peut-être en Paul Allègre que Alexandre Bardonnay.
C'est toujours compliqué quand tu dois qualifier des gens sur des critères qui ne sont pas vraiment objectifs, sur un ressenti. Et moi, je ne suis personne pour douter des qualités de l'un ou de l'autre. En tout cas, je ne crois pas que ça ait à voir avec le fait qu'il soit parti de l'INSEP et tout, et que la Fédé d'escrime se mettrait à qualifier d'autres personnes quitte à perdre en performance pour se donner raison sur ces histoires de on quitte le cercle.
David va pas sur ce terrain-là.
Non, on va pas sur ce terrain-là, connaissant le fonctionnement malheureusement des fédérations, et en particulier des fédérations olympiques. Là, je suis assez dubitatif, je te jure. Ouais. J'ai mis des réserves, franchement. Moi, enfin, quand il y a deux athlètes qui prônent le fait qu'ils veulent que leur pote soit avec eux pour une aventure ensemble, justement dans ce rôle de remplaçant, il sera d'autant plus motivé pour le faire. Enfin, tu vois, je prends ton argument même à l'inverse. Et bon, ouais, c'est un peu tiré. Si on regarde objectivement sur le papier, apparemment Bardonnay est devant son remplaçant en termes
au niveau ranking, oui, exactement.
Au niveau ranking. Donc voilà. Il y a ça, plus les deux autres qui le défendent et qui veulent qu'il soit avec eux. ça sent quand même la magouille ratatouille derrière. Enfin, excuse-moi, mais...
Alors, oui. Sachez qu'on on a évidemment demandé à la Fédé, au DTN, de s'exprimer nos comments pour l'instant. On a également invité Alexandre Bardonnet à s'exprimer dans cette émission, mais il veut se consacrer au 25 juin et à sa prise de parole, parce qu'il y aura une confrontation aussi avec la Fédé. Donc, c'est un moment assez bizarre. Le 25 juin, c'est un mois pile avant le début des Jeux Olympiques. Et cette équipe d'escrime qui, normalement, doit nous ramener beaucoup de médailles, on sent que depuis quelques mois, il y a quand même pas mal de tensions.
Cette équipe d'esprit, c'est pas mal, tu vois.
Oui, mais ça, c'est parce que j'ai un peu de beurre dans la bouche.
Mais deuxième information. Est-ce qu'on est sûr que son copain Canon est vraiment objectif ?
Par rapport, évidemment, à la photographie. Bravo. Deuxième information dans Zapping des Jeux, je vais vous donner. C'est la candidature des Alpes françaises pour les Jeux Olympiques d'hiver 2030 qui est suspendue par le CIO. On s'en fout, pas, Simon Dutin.
Répète la question parce que du coup, j'ai...
La candidature des Alpes françaises suspendue.
Je m'en fous.
Ok. Marie Martineau.
Non, je m'en fous pas.
Bah oui, toi, la Haute-Savoie, évidemment. David Douillet.
Ouais, je m'en fous, pardon.
Je m'en fous totalement.
Alors, les élections législatives anticipées chamboulent tout, même la candidature donc des Alpes françaises. Le CIO ne les désignera comme hôtes le 24 juillet prochain que s'il a reçu les garanties publiques requises. La situation politique actuelle en France n'a pas permis de finaliser les documents. C'est ce qu'a indiqué la commission exécutive de l'instance olympique à Lausanne cette semaine. Mais si ce vote s'annonçait, c'est vrai, comme une formalité, on en parlait dans les GG depuis l'entrée des Alpes françaises en dialogue exclusif avec le CIO en novembre dernier, bah, il est désormais soumis à la remise des engagements financiers de l'État et des deux régions concernées. J'ajoute, pour terminer, que la garantie de livraison des Jeux Olympiques sera désignée par la personne qui peut engager le gouvernement, donc le Premier ministre. Et on va peut-être changer de Premier ministre. Ça t'inquiète, toi, ou pas, Marie ?
Non, ça ne m'inquiète pas, même si on sait que tout est possible. En même temps, si on change de Premier ministre, suivant comment ça se passe, il y a d'autres choses qui m'inquiéteront largement plus que l'éventuel non-dossier de finalisation de candidature pour Alpes 2030, on va pas se mentir. En l'occurrence, de toute façon, cette fameuse lettre de garantie financière, on l'attend depuis le début et donc voilà, elle va arriver, on l'aura. C'est juste que c'est tout le CIO est dans son rôle de dire ah bah attendez, il y a du tumulte à un endroit, il faut qu'ils règlent d'abord leurs problèmes et puis on continuera de travailler après. De toute façon, cette candidature, elle est un peu sur les chapeaux de roue, on est un peu dans un timing de toute façon sprint depuis le début, donc bon, ça de plus ou de moins.
Ok, on n'est pas inquiet pour ça. Okay. Pas trop inquiet. Ouais. Juste David, pardonne-moi, je suis obligé de prendre la main parce que je voudrais vous faire écouter quelque chose. On en parlait à 9h30 de l'engagement des sportifs. Vous avez entendu
Marcus Thuram,
les joueurs de l'équipe de France qui avaient plutôt un engagement citoyen. Allez voter. Eh bien, Marcus Thuram, qui était présent il y a quelques instants en conférence de presse, lui, il veut faire barrage au RN et il le dit. Je voudrais vous faire écouter et vous faire réagir, évidemment.
J'ai appris ça après le match contre le Canada et on était un peu tous choqués dans les vestiaires. Je pense que c'est la triste réalité de notre société aujourd'hui. Je pense que il y a des messages qui sont véhiculés tous les jours à la télé pour aider ce parti à passer. Je pense que, comme l'a dit Ousmane, il faut aller voter. Il faut dire à tout le monde d'aller voter. Et surtout, faut, en tant que citoyen, que ce soit vous, que ce soit moi, il faut se battre au quotidien pour que ça ne se reproduise pas et pour que le RN ne passe pas.
Marcus Thuram, c'est la première fois là qu'un joueur de l'équipe de France montre son engagement politique et appelle à faire barrage au Front National.
Fils d'un certain Lilian Thuram, qui est l'un des rares joueurs emblématiques de ces 20 dernières années à avoir souvent exprimé une conscience politique, même en dehors de situations aussi critiques qu'actuellement.
C'est un sujet important, on en a parlé à 9h30, allez nous écouter en podcast rapidement. Une première réaction, Marie.
Non, rien de particulier. Je pense qu'il est dans la suite logique. Il est allé un petit cran plus loin que ce qu'ont fait les autres, mais je ne crois pas que ça va changer la donne plus que ça.
Oui, mais on sait que cette équipe de France est suivie aussi par les jeunes, donc ça peut aussi montrer un engagement et peut-être inciter les jeunes à aller voter. Oui.
Ce qui est choquant, c'est qu'il dit on a tous été surpris, choqués dans le vestiaire. Il parle de l'équipe de France dans son ensemble.
Oui, et tu laisses quoi en suspens ?
Mais c'est pas son rôle de, justement, moi je redis ce que j'ai dit, un sportif, c'est pas au sportif d'inciter.
On n'est pas d'accord avec ça, Denis, sur ce sujet, j'ai déjà exprimé mon désaccord avec vous. David, très rapidement, vraiment, pardonne-moi.
Mais je, très rapidement, je trouve que nos amis artistes, par exemple, qu'on entend souvent pour diverses choses, sont très très silencieux sur ce sujet. Voilà.
Voilà, et c'est bien quand voilà, même nos joueurs de foot s'engagent en politique aussi et expriment leur opinion.
Là, il y a un silence assourdissant.
Oui, ça, tu as raison. Bref, merci beaucoup les GG.